Orange est là.
Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine du 16 au 22 mai 2024, réservée aux particuliers. Conditions en boutique et sur orange.fr.
France Inter, première radio de France.
France Inter, il est midi. Timur Öztürk pour les infos.
Nous sommes loin d'un retour à l'apaisement, juge la maire de Nouméa, Sonia Lagarde, malgré des nuits relativement plus calmes en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, un homme est mort sur un barrage dans le nord du territoire, un caldoche. Il a tenté de forcer un barrage tenu par des indépendantistes kanak et a été tué par balle. En tout, 6 personnes sont mortes depuis lundi, dont 2 gendarmes. 2700 policiers et gendarmes sont arrivés en renfort dans l'archipel du Pacifique. Par ailleurs, on apprend que le relais de la flamme olympique ne passera pas par la Nouvelle-Calédonie, comme c'était prévu à partir du 11 juin prochain, au vu de la situation sur place. EFO Justice et la CGT pénitentiaire appellent à l'arrêt du mouvement de blocage des prisons, mouvement initié après l'attaque mortelle d'un fourgon de transfert de détenus mardi dans l'heure. Les syndicats des gardiens de prison négocient avec le ministère de la Justice, qui a formulé hier soir de nouvelles propositions pour renforcer la sécurité des agents pénitentiaires. Il prévoit notamment une dotation rapide en armes longues ou encore une limitation des extractions de détenus avec un développement du recours à la visioconférence pour les interrogatoires. Thomas Fatome, directeur de l'assurance maladie, invite les médecins à saisir l'opportunité en pleine négociation sur le tarif de la consultation chez les généralistes. Ce qui est sur la table est historique, estime ce matin Thomas Fatome, invité de France Inter. Selon un projet d'accord finalisé par l'assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux, la consultation passerait de 26,50 euros à 30 euros, ce qui compense à peine l'inflation, déplore la Fédération des médecins de France. Mais si les syndicats refusent de signer, on reste à 26,50 euros, prévient le directeur de l'assurance maladie. Au Proche-Orient, un chef du djihad islamique palestinien tué par une frappe israélienne à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. En mer Rouge, un pétrolier battant pavillon panaméen a été touché par un missile au large du Yémen, où les rebelles houthis proches de l'Iran multiplient les attaques contre les navires marchands depuis le 7 octobre. L'Afghanistan, à nouveau touché par de violentes crues, au moins 50 personnes ont perdu la vie dans l'ouest du pays et 2000 habitations sont détruites. En France, pas de victimes, mais la Moselle reste en vigilance rouge, menacée par les crues, bien qu'il ne pleuve plus. Sur la rivière Nier, réunie, le pic de crue ce matin a dépassé les 5 mètres dans le secteur de Filstroff, un niveau supérieur aux crues historiques de 1983 et 1997. Le Bas-Rhin, pour sa part, reste en vigilance orange et la Meurthe-et-Moselle repasse en vigilance orange. Chez nos voisins belges, la pluie fait également des dégâts à la région de Liège, touchée la nuit dernière par des inondations soudaines. Ni blessés, ni victimes à signaler. Et puis la SNCF ouvre sa billetterie pour les trains au départ ou vers Paris le 26 juillet, date de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais aucun train ne partira ce jour-là après 16 heures pour des raisons de sécurité.
Tous les dimanches matins à 11h sur France Inter, on va déguster.
Bonjour Monsieur Echtebech.
Ce dimanche, Philippe Etchebest, qui se cache derrière le tablier du chef le plus cathodique de France. Ses étoiles Michelin, son titre de meilleur ouvrier de France, sa carrière télé.
Finalement, ce que je fais dans le cauchemar, c'est pour aider les gens.
Sans oublier ses meilleures recettes, on reçoit Philippe Etchebest pour une grande masterclass en public.
Le chef Philippe
Etchebest.
Les masterclass dont va déguster.
On se retrouve de 11h à midi
sur France Inter.
Tu sais Chantal, c'est un peu petit chez nous, on déménagerait bien, mais on adore notre maison. C'est vrai que c'est petit, mais on l'adore cette maison.
Ah puis... oui, mais là t'es en boucle hein, ma chérie.
Ouais, elle est trop petite.
Chez Akena, ils ont un nouveau modèle de véranda. C'est une véritable extension de maison, plafond plat, isolation, c'est exactement ce qu'il te faut. Allez, on va sur akena.com et on arrête de déprimer.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
France Inter, partenaire du Printemps des Comédiens, du 30 mai au 21 juin, au Domaine d'Eau à Montpellier. Cyril Test, Jean-François Sivadier, Guillermo Calderon, Myriam Muller, Marina Otero, Wajdi Mouawad, Emma Danté, Christiane Loupa, Jean Bellorini, Katia Ferreira, Joël Pomera, Lionel Drey et Clémence Jean-Guillaume, Georges Lavaudan, Brigitte Négro et tant d'autres artistes. Le Printemps des Comédiens du 30 mai au 21 juin, au Domaine d'Eau à Montpellier, un événement France Inter.
France Inter, midi 4, tout de suite le grand face-à-face avec vous Thomas Snegaroff.
Merci Timur Öztürk.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face-à-Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine. Et puis pour le débat, nous poursuivrons aujourd'hui notre mois européen. Chaque samedi, un grand intellectuel vient nous livrer son regard sur notre continent, son dessein, son destin. Et aujourd'hui, c'est une politiste qui se penche sur les valeurs de l'Europe, valeurs proclamées dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de décembre 2000, mais valeurs malmenées par d'autres lectures illibérales de la démocratie ou encore par des impératifs de sécurité qui les affaiblissent. Quelles sont donc ces valeurs qui fondent l'Europe? Comment les protéger? Comment les faire vivre? On posera ces questions fondamentales pour notre avenir commun à Justine Lacroix, professeure de théorie politique à l'Université libre de Bruxelles. Elle signe « Les valeurs de l'Europe, un enjeu démocratique » aux éditions du Collège de France. Mais pour l'heure, c'est le duel.
Le grand face-à-face. Thomas Snegaroff sur France Inter.
Pour établir l'ordre, le président de la République a demandé la plus grande fermeté à l'endroit des pillards et des émeutiers. Une circulaire pénale sera donc publiée par le garde des Sceaux dans les toutes prochaines heures pour garantir les sanctions les plus lourdes contre les émeutiers et les pillards. Parce que, je le redis, les premières victimes de ces violences, les premières victimes de ces exactions, ce sont les habitants de la Nouvelle-Calédonie qui veulent pouvoir vivre en paix. Et évidemment, je leur adresse ma solidarité, je pense à tous les habitants, je pense aux familles, je pense à la jeunesse durement frappée par ces émeutes.
C'était Gabriel Attal, jeudi, situation très tendue en Nouvelle-Calédonie, grande violence, bilan déjà dramatique, couvre-feu, que se passe-t-il dans ce territoire ultramarin? Un épisode d'une décolonisation sans fin, pour reprendre la formule de Benjamin Morel, l'universitaire et auteur de La France en miettes. Je vous pose la question, Natacha.
Je pense que la situation doit être en fait observée suivant différents angles. Il y a l'angle purement stratégique, au sens de la stratégie politique. Et là, on peut s'étonner de l'aveuglement du gouvernement, alors même que d'anciens premiers ministres ont prévenu que la situation allait se dégrader. La maladresse qui a consisté, ce sont plein de petits éléments qui a consisté par exemple à nommer Sonia Pagès secrétaire d'État, c'est-à-dire une élue loyaliste, puis ensuite le rapporteur du projet de loi de loi constitutionnelle, un autre élu loyaliste qui a donné l'impression aux indépendantistes d'un verrouillage. Bon, ça c'est la stratégie politique. Il y a ensuite une dimension, j'allais dire, de philosophie politique, et là, on entre dans la complexité, et c'est ça qui est passionnant, parce que je vous avoue que je tourne le problème dans tous les sens, je ne trouve pas de réponse simple, et je ne saurais vous dire exactement ce que je pense de la question qui se pose, que je résumerai en une phrase, qu'est-ce qu'un peuple ? Parce qu'en fait, il me semble évidemment que nous sommes dans une république dans laquelle une voix vaut une voix, chaque citoyen doit pouvoir s'exprimer. Et donc on comprend l'idée que la Nouvelle-Calédonie appartient à la République et que 25% du corps électoral exclu des élections régionales, cela pose un problème.
Juste faut expliquer pourquoi 25% serait exclu.
Parce
en un mot.
Que ce sont ceux qui sont arrivés ou nés après les accords de 1998 qui ont déterminé le corps électoral. Certes, mais nous ne sommes pas dans la République abstraite. Nous sommes dans un pays concret, nous sommes sur un territoire qui est lié intrinsèquement à un peuple, le peuple kanak, qui a une histoire et une culture, et on comprend parfaitement que ce peuple n'ait pas envie d'être dilué parce que non, l'identité même politique des individus n'est pas quelque chose qui tombe du ciel et qui est abstrait. Et là, et encore une fois, cette situation est complexe. Pourquoi ? Ben parce que tout simplement, on comprend bien que en effet, ça relève d'un processus colonial et que c'est cela qui rend beaucoup plus difficile la prise en compte de l'identité culturelle, historique de ce peuple kanak dans des institutions qui, malgré tout, doivent garantir une forme d'égalité. Mais les revendications du peuple kanak sont légitimes. J'ajoute différents éléments. Nous ne serions pas dans cette situation s'il y avait eu une prise en compte de la crise économique et sociale qui frappe l'île, à savoir la baisse du cours du nickel, élément essentiel, élément géostratégique qui explique tous les appétits qui se nouent autour de la Nouvelle-Calédonie, et il serait particulièrement naïf de ne pas voir les ingérences chinoises notamment, mais avant cela il y avait eu autrefois des ingérences australiennes, etc.
Azéri, et, peut-être même aujourd'hui.
Alors actuellement, Azéri également. Nous avons, je pense que la France, évidemment, n'a pas intérêt à perdre la Nouvelle-Calédonie, qui est un élément essentiel de sa souveraineté. La Nouvelle-Calédonie a-t-elle intérêt à être indépendante? Le serait-elle dans le sens de ce contexte-là? Certainement pas. Il suffit de voir la façon dont, au Vanuatu, la Chine, petit à petit, aide un État profondément endetté en prêtant. Les prêts ne pouvant pas être remboursés, la Chine est en train de racheter toutes les terres du Vanuatu. Est-ce qu'on veut vraiment que la Nouvelle-Calédonie subisse cela? C'est pour ça qu'il fallait anticiper cette crise. C'est pour cela qu'elle n'est pas seulement, elle ne relève pas seulement de l'histoire et de la philosophie politique, mais aussi tout simplement de la géostratégie, de l'économie. Et je pense que cette dimension-là a été légèrement sous-estimée.
Gilles, quel défi lancer ici à la République ?
Mais c'est, je crois que Natacha a raison, c'est une situation qui est à la fois très difficile, en raison de la violence, mais pas seulement, et d'une grande complexité. Pour essayer de l'éclairer, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 7 octobre dernier, nous recevions Pierre Singaravelou, qui avait écrit un gros livre qui s'appelait « Colonisation, notre histoire ».
Il l'avait dirigé.
Qui avait dirigé un grand livre collectif.
Très grand livre.
Et dans lequel il y a deux articles sur la Nouvelle-Calédonie. Un sur son histoire longue, qui montre à la fois qu'on est dans une histoire coloniale, mais qu'on est dans une histoire coloniale qui est plus compliquée que l'affrontement entre un colonisateur et un colonisé. Et il raconte que dès 1911, dans le recensement de 1911, il y a quatre catégories. Non pas deux, mais quatre catégories. Une population libre, je cite, entre guillemets, ce sont les colonisateurs. Une population pénale, ce sont les bagnards. Une population indigène des tribus, ce sont les Kanaks. Et déjà des immigrés. Bon, et donc, il raconte même que à l'intérieur de chacune de ces catégories, il y a des divisions. Donc, un phénomène de colonisation, mais plus complexe. Et puis, le deuxième élément sur l'histoire courte, qui est très intéressant, c'est très intéressant parce que on est avant les événements récents, il dit qu'il y avait eu une espèce de ce qu'il appelle le serment de Matignon, au moment de Michel Rocard. L'idée que les responsables politiques nationaux ne doivent pas utiliser la Nouvelle-Calédonie à des fins de politique nationale. Et voilà ce qui est écrit. Donc, il y a maintenant...
En 1988
Voilà. En 2019, dans cette perspective rocardienne, le Premier ministre Édouard Philippe s'engage à ce que l'État n'organise pas le dernier référendum d'autodétermination pendant la campagne présidentielle. Mais le président de la République fait volte-face et fixe la date du scrutin au 12 décembre 2021 pour clore le processus de Nouméa au plus vite et en faire un argument de campagne. Le 12 décembre, le non à l'indépendance l'emporte finalement avec plus de 96% des suffrages exprimés, mais 56% des inscrits ne sont pas allés voter, comme si la leçon d'Ouvéa, boussole politique essentielle pendant 33 ans, avait été oubliée au sommet de l'État. Et je crois qu'il y a avec ces deux éclairages quelque chose qui permet de comprendre un peu mieux la situation dans laquelle nous sommes. Parce que pour partie, Natacha a raison, il y a une dimension économique. C'est-à-dire que depuis 20 ans, les choses se sont améliorées au sens où les inégalités ont plutôt régressé. Mais là, je ne sais pas si c'est de manière conjoncturelle ou si c'est plus durable, il y a une crise profonde avec le nickel qui joue un rôle absolument central. Pour partie aussi, il y a des questions politiques, les maladresses qu'a évoqué Natacha, c'est vrai des nominations, c'est vrai aussi d'un autre élément qui est le retrait du Premier ministre dans la gestion du dossier alors qu'il jouait un rôle d'équilibre.
Mais c'est plutôt l'intérieur qui s'en est occupé.
Et c'est vrai de ce troisième référendum qui vient d'être évoqué, qui a marqué une rupture de confiance avec les Kanaks. Et au fond, on se retrouve avec deux légitimités. Celle d'un peuple colonisé qui veut avoir son droit à l'autodétermination, mais qui est devenu minoritaire, du fait des migrations successives. Et puis, le principe démocratique, un homme égale une voix, qu'évoquait Natacha. Et c'est ce conflit de légitimité qui constitue le nœud de ce problème, avec, je crois, un sentiment, et c'est pour ça que la formule d'une décolonisation sans fin est assez juste, des Kanaks, ou d'une grande partie des Kanaks, le sentiment que la colonisation ne peut se dénouer que par la décolonisation, que la souveraineté doit leur être restituée, quitte à être partagée, qu'ils peuvent aimer la France, mais qu'ils ne se sentent pas vraiment français. Et donc, on se trouve dans ce nœud-là. Face à ce nœud-là, il y a la question, comment y répondre ? Il y a une première réponse qui est celle de la fermeté. On vient d'entendre Gabriel Attal à l'instant, et évidemment que l'ordre est nécessaire, a fortiori quand les violences sont aussi fortes que celles auxquelles nous assistons. Mais l'ordre seulement, chacun le sent, est insuffisant. Il peut y avoir la réponse du droit. C'est-à-dire, les référendums, c'était ça l'idée, vont marquer la fin de la colonisation. Ou l'idée qu'il faut revenir ou se rapprocher de ce principe de base, un homme égale une voix, et on sent que là aussi, ce chemin-là est insuffisant. Et donc, il faut faire preuve de dialogue.
Et d'inventivité, peut-être,
exactement,
dans des institutions
exactement,
nouvelles.
De souplesse sur les délais, de souplesse parfois même sur les principes. D'imagination, c'est vrai, sur la méthode. Il faut réfléchir à comment on recrée de la confiance et comment on réinstitue le dialogue. Et enfin, d'imagination sur le fond, c'est-à-dire de ne pas régler seulement la question du corps électoral et les questions institutionnelles, mais de réfléchir à un accord plus global. Ça paraît une montagne haute à gravir, mais elle a déjà été gravie deux fois avec les accords de Matignon et les accords de Nouméa avec Michel Rocard et avec Lionel Jospin.
Le grand face-à-face. Le duel.
Ils essayent de passer, ils nous intimident un peu, on voit des allées-venues. Donc nous, on veut vraiment plus qu'ils soient dans la cité, ils peuvent aller vendre, faire ce qu'ils veulent, mais plus chez nous. Et à partir de midi, on descend jusqu'à à peu près 3h du matin et on se roule tous ensemble, on boit des cafés.
L'occupation constante des lieux est le seul moyen dont ils disposent pour empêcher l'installation d'un point de deal qu'ils redoutent plus que tout.
Tout ce qu'on a peur, c'est qu'ils s'attaquent aux voitures, ils s'attaquent aux appartements. C'est pour ça que je ne veux pas voir mon visage.
Vous avez peur de représailles ?
Ah oui.
On est dans la possibilité de protéger nos enfants et notre famille, on va le faire jusqu'au bout. Et l'union fait la force.
La vie insupportable des habitants des quartiers gangrénés par le trafic de drogue. Mardi, la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic a rendu son rapport. Et l'état des lieux est vraiment très inquiétant. Gérald Darmanin a parlé d'une guerre à mener. Quant à Bruno Le Maire, auditionné par le Sénat pour ce rapport, il a évoqué un danger majeur pour notre sécurité nationale qu'il considère, je le cite, avec la même gravité que le danger terroriste. Gilles, je me tourne vers vous. Vous avez lu ce rapport sur le narcotrafic. Est-ce qu'il est aussi inquiétant que ce que je viens de dire ?
Oui. D'abord, gloire au Parlement, gloire au Sénat.
Oui.
Ah oui. Les Français se demandent souvent à quoi sert le Parlement et a fortiori à quoi sert le Sénat. Eh bien, il sert pas seulement à faire la loi, il sert à contrôler l'action du gouvernement et l'action de l'administration et à faire des commissions d'enquête. C'est celle qui a été conduite là. C'est un travail très sérieux, 6 mois de travail, 150 auditions, un travail transpartisan. Oui. C'est très intéressant de le souligner, c'est-à-dire que l'initiative est une initiative des Républicains, le président est un président socialiste, Jérôme Durin, et je crois que ça va être, j'espère, un travail utile. En tout cas, ça a déjà cette première utilité, c'est que ça met à l'agenda une question qui est souvent oubliée dans le débat public, alors qu'elle est omniprésente chez les Français, et ce que l'on vient d'entendre là en est une illustration. Après, je crois qu'un des apports principaux de ce rapport est de montrer à quel point nous sommes face à un phénomène qui est très largement nouveau. On a l'impression que ça fait des années et des années, des décennies que cette question-là est dans le débat public, mais par son ampleur, il parle de submersion, oui, par sa nature. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le cannabis, même si c'est encore la drogue la plus répandue, mais c'est le développement des opioïdes de synthèse et c'est le déferlement de la cocaïne, plus d'autres nouvelles drogues chimiques. C'est pas par son implantation, pas seulement les métropoles, pas seulement même les villes moyennes, mais de plus en plus les petites villes et le monde rural. Et enfin, par sa distribution, c'est-à-dire que c'est pas un peu de, comme à l'aune de ce qui se passe pour le reste du commerce, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement chercher la drogue dans les points de deal, mais qu'elle est livrée par un phénomène d'ubérisation. Et pour le dire d'une formule, elle n'est pas dans le rapport, mais en fait, c'est ce que ça veut dire, c'est qu'on peut trouver n'importe quoi, n'importe où, n'importe où, n'importe comment.
Et n'importe quand.
Et n'importe quand, pardon. Et bon, et donc, avec des conséquences sur la santé, sur la violence, avec une violence plus vive par de plus jeunes, sur les mœurs, il y a des choses sur la corruption qui sont très intéressantes, et enfin sur la souveraineté même du pays. Bon, et il y a un point, je crois, qui pose vraiment la réflexion, qui est, est-ce que face à cette submersion, il ne faut pas changer de stratégie? Et c'est ça, je crois, par lequel le débat public doit commencer, avec l'idée qu'il faut attaquer par le haut le démantèlement des réseaux et pas par le bas. À partir de là, il y a toute une série de propositions. À la fois, je ne rentre pas dans le détail des propositions, mais elles sont égrenées, qui vont des moyens humains, des moyens juridiques, des moyens financiers sur les cibles, les ports, les aéroports. Mais c'est ça la question. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que nous faisons fausse route. Et quand je dis nous faisons fausse route, c'est nous faisons doublement fausse route. Quand on veut attaquer seulement par le bas, c'est ce qui est fait beaucoup dans toutes les opérations de démantèlement, les opérations Place Net XXL, avec des résultats qui sont des résultats mitigés.
Et à court terme, souvent.
Et à court terme. Mais c'est vrai aussi de ceux qui pensent que la question de la légalisation du cannabis est la baguette magique qui va permettre de tout régler. Et on voit que les deux stratégies, l'attaque par le bas, la légalisation, qui peut être un vrai débat, ne sont pas à l'échelle du problème.
Natacha, ce qu'on remarque aussi quand on lit le rapport, et notamment toutes les personnes qui ont été auditionnées dans le rapport, c'est le caractère très difficile, effectivement, d'entraver ce phénomène avec des gens qui sont de l'autre côté, à la fois des drogués, qui sont donc addicts à la drogue, mais aussi des gens addicts à l'argent de l'autre côté. Et il est très difficile de dénouer tout ça.
Oui, c'est d'ailleurs pour ça que, à Marianne, la semaine dernière, nous avions consacré notre une à ce phénomène dans son ensemble, en titrant « La guerre perdue contre le trafic de drogue », parce que pour l'instant, nous sommes en train de perdre la guerre. Et c'est ce que montre ce rapport. Sommes-nous un narco-État ? Non. Mais la question se pose de savoir si nous allons le devenir. Et c'est vrai, en fait, de l'ensemble de l'Europe. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on constate avec ce rapport que finalement, la libre circulation des flux de marchandises, de capitaux, a des conséquences. C'est de nous priver des capacités de réguler les trafics. Et quand Gilles parlait d'ubérisation, on voit bien que tous les problèmes auxquels les politiques sont confrontés sur la question de la régulation du droit social, eh bien, en fait, tout cela se répercute ensuite dans les trafics sous une autre forme, mais toute forme de dérégulation facilite les trafics. J'en veux pour preuve qu'il y a tout un passage sur la question des ports. Et le fait que, évidemment, les ports hollandais, par exemple, qui sont ceux qui, depuis des années, sont les plus importants en Europe, sont déjà submergé par les trafics, puisque vous avez là des phénomènes où un docker peut être sommé de choisir entre une somme d'argent très conséquente ou une balle dans la tête, et que c'est en train de se déporter sur les ports français, notamment le port du Havre. Et là, Le constat, c'est qu'en fait, nous sommes totalement impuissants. Pourquoi ? Parce qu'un port perd en compétitivité si on ne charge pas ou on ne décharge pas extrêmement rapidement. Et au port du Havre, par exemple, on décharge et on charge 2,2 millions par an et on en contrôle 800. Vous voyez, c'est infinitésimal, évidemment. Donc la question des contrôles, elle se pose aussi de cette manière-là, c'est-à-dire sommes-nous prêts à perdre en rapidité de flux pour essayer de contrôler vraiment.
Vous êtes en train de nous dire que le trafic de drogue, c'est aussi un symptôme de la dérégulation et de la mondialisation ?
Bien sûr, bien sûr. Et nous sommes en train de nous apercevoir, en effet, que 40 ans de dérégulation généralisée ont eu des conséquences, d'autant plus que l'État n'a plus les moyens et que ce qui est frappant, c'est le manque, par exemple, de fonctionnaires pour notamment organiser des enquêtes financières, puisque Gilles a tout à fait raison. Ce que montre ce rapport, c'est qu'il faut attaquer par le haut. Donc, taper les têtes de réseau, donc saisir des avoirs, donc repérer la richesse qui ne peut pas être justifiée. Pour cela, il faut des gens qui fassent des enquêtes de long terme. Je termine par un point. La question de la corruption, à mon avis, est centrale. Il n'y a pas de démocratie sans une lutte contre la corruption. Or, si nous devenons un narco-État petit à petit, ce sera parce que, et nous le voyons de plus en plus, il y aura eu des fonctionnaires, des élus, petit à petit gangrénés. Ça, c'est un enjeu absolument mortel.
Le grand face-à-face, le duel.
Le 22, on monte les marches. En tout, on est 15. Il y a 11 acteurs en situation de handicap et 4 classiques, 4 chiants, on va dire. Et en fait, ça me tenait à cœur depuis longtemps. Ça fait longtemps que je dis à la prod, j'aimerais bien qu'on arrive à leur faire monter les marches, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'influenceurs qui montent les marches. Ils ont fait un film, ils ont le droit. Même moi, je les ai jamais montés, alors que qu'il y a des influenceurs qui les ont déjà montés 10 fois. Et donc, j'avais envie qu'ils les montent. Et maintenant qu'en plus, le film a ce succès-là, je trouve ça encore plus légitime. Et je suis content qu'ils arrivent un peu en vedette à Cannes, ouais.
Allez, en cette période de festival, on finit avec un film qui n'est pas en sélection à Cannes, mais on a entendu l'équipe d'un petit truc d'Artus, une comédie sur le handicap mental, montera bien les célèbres marches du Palais des Festivals mercredi prochain. Une manière de célébrer l'un des immenses succès actuels du cinéma français, un succès important. Le film est sorti le 1er mai dernier, il a déjà dépassé les 2 millions d'entrées. On dit parfois qu'un succès au cinéma raconte mieux que de longs discours l'état d'une société. Natacha, selon vous, que dit le succès du film d'Artus sur nous ?
Il dit beaucoup de choses et des choses intéressantes. D'abord, il faut rappeler qu'il y a 12% de Français qui sont en situation de handicap, ce qui signifie que le nombre de gens touchés par le handicap en France est immense. Et je pense qu'il y a, chez beaucoup de gens, bien tout simplement le plaisir de sentir que, pour une fois, ce sujet sort des radars. Alors, il y a déjà eu des films, des très beaux films avec des personnes handicapées. On se souvient tous du 8e jour. Oui. C'était une splendeur. Il y en a eu d'autres, mais c'est très important et le symbole de la montée des marches est essentiel. J'ajouterais une autre dimension, en plus de celle du handicap. Celle du film qui fait du bien. Du film qui raconte
le
quelque chose de plaisir.
Good.
Et je rappelle que un petit truc en plus a connu le plus fort démarrage en France pour un film depuis Bienvenue chez les Ch'tis. Mais en province,
oui.
Nettement moins à Paris.
À Paris,
c'est seulement le 5e. Là aussi, ça nous raconte quelque chose du pays qu'il faudrait avoir en tête. C'est-à-dire qu'il y a toute une part de la France qui a envie de se sentir bien et de tout simplement regarder une société, je pense à l'étude de la Fondation Jean Jaurès, que Gilles cite si souvent, une société où les rapports ne sont pas conflictuels et où il y a au contraire du bonheur partagé.
De l'empathie, de la rencontre. Et d'ailleurs, l'un des très, très grands succès de ces dernières années, c'était aussi sur le handicap, c'était Intouchable, il y a quelques années, d'Olivier Nakache.
Et la famille Bélier
Éric
aussi.
Toledano. Et la famille Bélier également, en effet, sur la surdité. Gilles.
D'abord, il faut mesurer vraiment l'ampleur de ce succès. Vous avez donné les chiffres, mais c'est pas seulement les chiffres, parce que c'est un succès qui se fait sans star. C'est une différence par rapport à Intouchable ou à d'autres grands films de succès, qui se fait sans Paris. Vous l'avez dit, puisque le ratio Paris-Province est totalement...
Sans Paris, la ville.
Sans Paris, la ville, parce que le ratio Paris-Province est très inhabituel. Il se fait sans la critique, parce que la critique est relativement mitigée. J'ai regardé les notes sur le site Allociné, et ça va. Ces notes moyennes de Télérama au Monde, en passant par l'Obs, mais aussi du Journal du Dimanche, Le Figaro, au Point. Donc, Ouais, d'accord.
Sans la critique, et ça se fait sans polémique aussi, parce que la polémique est venue, la polémique sur Cannes est venue après. Donc il y a vraiment un phénomène dont il
et
faut prendre...
Et la polémique, c'était les grandes marques refusent d'habiller les acteurs. Finalement, ils seront habillés par une grande marque.
Bon. Oui. Après, il faut essayer de comprendre les raisons, et là, objectivement, c'est pas si simple.
Ça serait trop facile. Hein. Si les raisons des succès étaient faciles à deviner, on serait tous milliardaires.
Somerset Maugham disait il y a trois règles à respecter pour écrire un roman. Malheureusement, personne ne les connaît.
Voilà.
Bon, et donc, soyons modestes. Donc, il y a sans doute le moment. C'est ce que disait Natacha. Hein, le fond de l'air est frais ou le fond de l'air est gris. C'est-à-dire, à la fois, la météo de mai était mauvaise, ça permettait d'aller au cinéma, et le climat général est anxiogène. Il y a sans doute le traitement. C'est-à-dire que c'est pas seulement une comédie, c'est cette histoire de la bienveillance, la gentillesse qu'il y a dans ce film. Et ce sont des vraies personnes en situation de handicap, ce ne sont pas des acteurs. Donc il y a sans doute la manière dont c'est traité, c'est pas un film sur le handicap, mais c'est un film avec des personnes en situation de handicap. Après, est-ce qu'il y a le sujet, le handicap? Et est-ce que ce sujet, c'est une histoire d'identification, parce que Natacha l'a dit, il y en a beaucoup, ou est-ce que c'est une histoire d'altérité où on voit des gens qu'on ne voit pas? Donc c'est peut-être
un peu
les deux. Et puis il y a un dernier élément qui est une personnalité, la personnalité d'Artus, un peu comme il y a eu Omar Sy dans Intouchables, même s'il est très différent d'Omar Sy, mais
oui, c'est vrai.
Parce que c'est un peu le cocktail de tout ça qui explique le succès de ce film.
Un succès qui véhicule plein de belles valeurs. Les valeurs, c'est justement le sujet d'étude et de travail de notre invité. Place au débat du Grand Face-à-Face.
France Inter, le Grand Face-à-Face. Le débat.
Bonjour Justine Lacroix.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de théorie politique à l'Université libre de Bruxelles. Vous avez beaucoup travaillé et écrit sur la pensée politique contemporaine et sur la construction européenne. Et vous venez de publier, c'est sorti avant-hier, Les valeurs de l'Europe, un enjeu démocratique aux éditions du Collège de France, car ce sont les conférences que vous y avez prononcées qui sont ici retranscrites. Alors, quelles sont les valeurs de l'Europe ? Sont-elles aujourd'hui dévoyées, notamment en raison des poussées illibérales et des enjeux de sécurité? On va vous poser ces questions qui interrogent finalement l'identité européenne. Mais ces valeurs, elles sont peut-être aujourd'hui également à l'œuvre aux portes de l'Europe. Je vous propose, pour commencer l'entretien, de prendre la direction de la Géorgie, où depuis plusieurs jours, des dizaines de milliers de manifestants se réunissent, souvent drapeau européen à la main, pour s'opposer à la loi dite russe, votée mardi, un texte qui exige que les médias et les organisations non gouvernementales s'enregistrent comme, je cite, « poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère s'ils reçoivent plus de 20% de leur financement de l'étranger », un texte qui inquiète les défenseurs des droits dans le pays, notamment cette militante géorgienne pour les droits des femmes.
We don't have like independent judiciary.
Nous n'avons pas de justice indépendante. L'opposition est faible et les seules voix indépendantes qui se font entendre sont la société civile et les médias indépendants. Ils veulent faire taire toutes les critiques et c'est pour ça que nous sommes visés.
Justine Lacroix, je crois que là on est au cœur déjà de votre sujet, de votre thèse. Comment est-ce que la politiste que vous êtes, spécialiste des valeurs et de l'Europe, analyse ce débat qui se trouve aux portes de l'Union européenne, mais la Géorgie est candidate à l'entrée?
Oui, c'est vraiment un enjeu très important pour l'Europe, pour l'Union européenne, un enjeu, je dirais, existentiel. Et je pense qu'il faut vraiment voir qu'est-ce qui est attaqué, c'est en fait la liberté d'association. Et la liberté d'association, c'est pas n'importe quelle liberté. Je rappelle que Alexis de Tocqueville disait de la liberté d'association qu'elle était la science mère dans les pays démocratiques, parce que de la liberté d'association dépendaient en fait toutes les autres libertés. C'est dire l'importance qu'il accordait. Et pourquoi c'est une liberté, tellement importante pour l'exercice de la démocratie? Ben parce que c'est là qu'on voit que les droits de l'homme, c'est pas les droits de l'individu égoïste replié sur son pré carré, c'est le droit de se relier à d'autres, d'exercer sa liberté avec d'autres, de partager ses pensées avec d'autres. Et c'est ça qui est attaqué en Géorgie aujourd'hui. Il faut quand même rappeler que c'est ça qui a permis à Poutine de laminer la société civile depuis 2 ans. Et donc, c'est très inquiétant pour les libertés en Géorgie. C'est très inquiétant pour l'Union européenne, parce qu'on peut se demander où Poutine va s'arrêter.
Est-ce que ça définit ce qu'est l'Europe ? En creux, finalement. Vous citez Carl Schmitt dans votre texte, dans une de vos conférences, retranscrite dans ce livre, et vous dites que
Carl Schmitt nous raconte qu'on s'unit contre un ennemi qu'on a défini collectivement. Est-ce que Poutine a cette fonction-là et cette fonction-là autour des valeurs que l'on, qui seraient opposées aux nôtres ?
Alors moi, je résisterais tout à fait à cette lecture des choses. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, Carl Schmitt définissait le politique par la capacité à se désigner un ennemi. Et l'ennemi devait vraiment être entendu en un sens existentiel. Mmh. Pour lui, c'était effectivement l'horizon ultime, c'était la possibilité d'une lutte à mort avec cet ennemi. Et donc moi, j'aime pas parler de la Russie comme d'un ennemi, mais comme d'un adversaire pour l'instant. Un adversaire, la Russie. Le régime russe, c'est un adversaire. Le peuple russe n'est pas notre ennemi. Et je pense qu'il faut résister. Carl Schmitt était un penseur profondément antidémocratique, même s'il a récupéré à son compte le concept de démocratie, profondément hostile aux libertés. Et donc, faisons attention, on va lui emprunter des concepts qui ont peut-être le mérite d'éclairer en apparence certaines configurations. Mais ça n'empêche que Poutine est clairement l'adversaire de l'Union européenne.
Alors, quelles sont les valeurs européennes ? On va y venir, c'est très important. Et sont-elles strictement européennes ou bien sont-elles universelles ? Parce que dans ces conditions, si elles ne sont pas strictement européennes mais universelles, comment peut-on construire une unité avec des valeurs qui ne seraient pas spécifiques ?
Alors, ce que j'appelle les valeurs de l'Europe, moi je me suis résolue avec pas mal de difficultés à utiliser le mot valeur. Pourquoi ? Parce que auparavant, je dis avant, donc je crois que l'introduction du concept de valeur, c'est dans le traité de Lisbonne, si je ne fais pas erreur, et peu importe. Avant ça, on parlait de principes. Mm-hmm. Ce qu'on désignait comme des principes, c'était démocratie, état de droit, respect des minorités, pluralisme, etc.
On appelle aussi les critères de Copenhague.
Voilà, exactement, qui définissait aussi les critères d'adhésion à l'Union européenne. Bon, et puis le langage a glissé et on s'est mis à parler de valeurs, alors que pour les penseurs du politique, enfin les philosophes du politique, le terme de valeur renvoie plutôt à un mode de vie, à des significations partagées. Et donc pendant longtemps, je me suis un petit peu battue pour dire qu'il ne faut pas utiliser le mot de valeur. À un moment, il faut reconnaître qu'il y a des batailles qui sont perdues, que ce débat sémantique n'intéresse pas grand monde en dehors de quelques théoriciens du politique. Et donc, ce que j'entends par valeur, effectivement, c'est des principes qui ont, oui, une vocation universelle, mais qui suppose à chaque fois une appropriation particulière dans chacune des cultures nationales et dans chacun des ensembles politiques. Alors, que ces valeurs soient à vocation universelle n'empêche pas qu'elles puissent définir l'identité politique de l'Union européenne. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des critères géographiques, des critères géopolitiques, des critères économiques qui puissent limiter l'adhésion de nouveaux États membres. Mmh. Et je crois très important que l'Union européenne continue à se définir, et c'est un combat qui est de plus en plus difficile, sur la reconnaissance de ses principes à valeur universelle et pas sur la valorisation d'un mode de vie particulier.
Alors on va rentrer un peu dans le détail, je pense, avec Gilles.
S'il y a, je crois, un fil rouge aux quatre leçons qui constituent ce livre, qui aborde quatre sujets apparemment différents, c'est un travail sur le sens des mots. Et c'est très intéressant, et ça fait écho à l'invité qu'on avait il y a 15 jours, qui était Heinz Wissmann, qui lui, dans une approche qui était une approche comparative sur le sens des mots, et notamment entre la France et l'Allemagne, et vous, c'est sur une approche qui est plus philosophique, plus juridique, une approche de politiste, mais je trouve votre livre qui est à la fois, c'est un petit livre qui est très clair, qui est très éclairant, et qui est très stimulant, parce que vous venez questionner beaucoup d'idées reçues. Dans votre première leçon, et c'est là-dessus que je voudrais commencer, vous interrogez le concept de démocratie illibérale qui s'est beaucoup développé depuis une dizaine d'années dans l'Union européenne et au-delà. Vous interrogez pour savoir si une démocratie sans liberté est possible. Et vous récusez ce thème-là, vous dites que c'est un oxymore d'une certaine manière. Démocratie illibérale, ça ne peut pas exister. Est-ce que ça peut être juste alors de parler de démocratie libérale ou est-ce que c'est aussi un oxymore ? Et question complémentaire, on ne peut avoir l'impression que vous dissociez d'un côté la substance, les droits de l'homme, les libertés, et d'un autre côté ce qui peut relever davantage de procédures, l'état de droit, la limitation du pouvoir. Est-ce que c'est le cas ? Et est-ce que ce ne sont pas en réalité deux sujets qui sont liés ?
Justine Lacroix.
Alors, ils sont historiquement liés, c'est-à-dire que le modèle sur lequel on s'est établi aujourd'hui est une démocratie libérale dont je pense qu'elle n'est pas un oxymore. Pourquoi ? Parce que ça correspond à un certain modèle politique qui se fonde effectivement sur la reconnaissance de droits sur la reconnaissance de l'indépendance des tribunaux, souvent sous un contrôle de constitutionnalité des lois. Mais effectivement, comme vous l'avez remarqué, quand j'ai tenté de montrer que la démocratie et le respect des libertés étaient indissociables, je tenais aussi à dire et à insister sur le fait que le modèle dans lequel nous vivons, celui du constitutionnalisme libéral, si vous voulez, ou de la démocratie libérale, n'est peut-être pas ni le premier mot, ni le dernier mot de la démocratie, si je puis dire, qu'il y a d'autres, peut-être d'autres façons, que je ne développe pas, de protéger les libertés. Ce que je refuse, la position à laquelle je m'oppose, c'est celle qui consiste à dire on pourrait définir la démocratie uniquement par l'homogénéité d'une volonté, par le respect d'une volonté majoritaire, par l'existence d'un mode de vie homogène, par la volonté du peuple, sans respect du pluralisme interne et du dissensus. Et ça, il me semble que ça trahit ce qu'est l'imaginaire démocratique, et je tente de le montrer depuis la Grèce antique, en réalité. Même si, bien sûr, il n'était pas question de droit individuel dans la démocratie ancienne, mais l'idée de dissensus, l'idée que la démocratie, c'est quand même ce régime de la licence et où on peut faire tout ce qu'on veut, et c'est bien pour ça qu'il a été critiqué par la plupart des philosophes politiques, c'est une idée très ancienne. Je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question, mais je voulais séparer, si vous voulez, le moment historique dans lequel nous nous trouvons, même la représentation, si vous voulez, la représentation, le contrôle de constitutionnalité des lois. Il y a des auteurs qui sont tout à fait démocratiques et même libéraux et qui critiquent le contrôle de constitutionnalité des lois. Je dis, c'est pas le fin mot de la démocratie.
Mais le fin mot, c'est pas non plus la dictature de la majorité.
Ça, c'est même, me semble-t-il, une contradiction avec ce qu'est l'imaginaire démocratique.
Natacha.
Mais justement, pour prolonger cette réflexion, ce qui apparaît en permanence, c'est la question de l'opposition qui a tendance à être créée actuellement entre volonté du peuple et état de droit, ou en tout cas le moment où les deux pourraient cogner. Et vous dites la volonté majoritaire peut être écrasante, et d'abord ça ne doit jamais être une volonté d'un peuple dont on fantasmerait l'unité absolue, c'est tout à fait juste. Mais la question que je me pose est de savoir comment on articule les deux si on considère que la loi fondamentale, la Constitution, a été justement votée par le peuple pour déterminer le cadre dans lequel la démocratie va s'exercer. Or, tout le débat qu'on peut avoir sur la construction européenne, c'est la question de l'articulation entre la Constitution, la loi fondamentale votée par les peuples, et les traités qui permettent la construction européenne. Il y a un débat sur lequel j'aimerais avoir votre éclairage, puisque, par exemple, en 2020, la Cour fédérale allemande de Karlsruhe avait considéré que l'action de la BCE de rachat de titres contrevenait, et c'était en fait un débat sur l'articulation entre les traités européens et la Constitution allemande. Le Conseil d'État, de son côté, dans un arrêt de 2021, c'est l'arrêt French Data Network, au contraire, accepte la prééminence, et renforce l'arrêt Nicolau de 89, ce qui accepte la prééminence des traités sur la Constitution. C'est-à-dire qu'on accepte que ce qui a été voté par le peuple, je pourrais rentrer dans les détails un peu plus des problèmes que ça pose, en fait, ne prévaut pas. Comment on fait pour que cette construction-là soit véritablement démocratique ? À quel moment la volonté du peuple doit-elle s'exercer là-dedans ?
Donc là, on change d'échelle, on va à l'échelle communautaire désormais.
Voilà.
Justine Lacroix, la question effectivement fondamentale, c'est la dimension démocratique de l'ensemble du projet communautaire.
Oui, c'est-à-dire que, en fait, ce que vous interrogez, c'est la primauté des traités européens sur le droit national, en ce y compris la loi la plus haute du pays, la Constitution.
Et j'ajoute, quand une loi est votée après la signature des traités, le Conseil d'État, en fait, décide que cette loi, si elle entre en contradiction avec les traités, ne vaut pas.
Oui, c'est une question difficile, mais deux choses. Il y a peut-être un sentiment de dépossession. Mais il n'y a pas de vol de la volonté du peuple. Pourquoi ? Parce que les traités européens sont quand même adoptés à l'unanimité des États, qui sont tous, a priori, élus, sont des démocraties, élus démocratiquement, et doivent tous être ratifiés par les États nationaux. Sinon, ça s'enraye.
Oui, c'est la question de la hiérarchie des normes.
Oui, mais la
est-ce qu'ils ont mandat
cette hiérarchie
pour ça ?
La hiérarchie des normes, c'est qu'à partir du moment, si vous voulez, où le peuple français ratifie un traité qui pourrait venir à contrevenir à sa constitution, effectivement, il doit mettre son droit interne en accord. Mais il n'y a aucun moyen de faire fonctionner une institution, un ensemble européen, ou l'ensemble européen, sans cela. Si, imaginez qu'on n'ait plus la primauté du droit européen sur le droit national. Mais tout l'ensemble européen se détricote. Ça veut dire que chaque État devient libre. Parce que c'est un argument que j'ai souvent entendu chez des gens qui sont effectivement très attachés à l'idéal républicain, qui disent « c'est pas possible, il faut revenir sur cette primauté du traité européen ». Mais en même temps, ils voudraient une Europe puissance, ils voudraient une Europe autonome, ils voudraient une Europe qui développe une politique étrangère offensive. J'ai dit « comment voulez-vous construire un ensemble si, de fait, il n'y a pas une primauté du droit européen adoptée tous ensemble sur les législations nationales.
Certes, même si la Cour constitutionnelle allemande n'a pas exactement la même vision.
Oui, elle n'a pas exactement la même vision aussi parce qu'elle estime qu'il n'existe pas quelque chose comme un peuple européen. Et moi, j'entendrais plutôt...
Question fondamentale.
Et moi, j'entendrais plutôt les arrêts de la Cour de Karlsruhe parce qu'elle dit des choses très importantes. Comme un avertissement, si vous voulez, alors c'est peut-être pas ce qu'elle dit, mais pas comme une invite à revenir sur la primauté du droit européen, parce que là, c'est vraiment, pour moi, accepter de détricoter tout ce qui a été fait, ça se détricotera à toute allure, mais c'est un avertissement pour dire qu'il faut renforcer les mécanismes d'implication démocratique au niveau européen. Oui, il faut renforcer le pouvoir, sans doute, du Parlement européen, lui donner un vrai pouvoir budgétaire, une vraie capacité d'action, et donc répondre à ce sentiment, peut-être, de dépossession démocratique dont je vous parlais.
Mais c'est un sentiment où vous considérez, vous, en tant que politiste, spécialiste des institutions européennes, qu'il y a là un hiatus dans lequel peuvent s'engouffrer des eurosceptiques qui considèrent, peut-être à raison, que leur voix n'est pas suffisamment entendue, que la démocratie n'est pas suffisamment entendue dans les décisions qui sont prises.
C'est-à-dire, la difficulté de l'ensemble européen, c'est aussi lié au fait que, de façon mécanique, plus vous éloignez le centre de décision, plus vous compliquez la configuration institutionnelle. Alors, c'est vrai que moi, je suis belge, hein, et donc la configuration institutionnelle de l'Union européenne me paraît relativement simple, comparée à celle qui existe dans mon pays, mais le sentiment de dépossession est quand même très très fort, et d'incompréhension aussi. Et donc, à partir du moment où vous éloignez le centre de décision, où les élections européennes sont quand même encore largement des élections qui se jouent sur des enjeux nationaux et des élections nationales, où le Parlement européen, qui a beaucoup gagné en pouvoir, mais n'a pas encore de vrai pouvoir, notamment budgétaire, ça crée évidemment un sentiment de dépossession. Mais est-ce que ce sentiment de dépossession est tellement plus grand au niveau européen qu'au niveau national? Une des choses sur lesquelles j'ai insisté depuis très longtemps, c'est aussi la nécessité, et il me semble que ça a quand même beaucoup évolué au cours des 10 dernières années, d'européaniser les débats nationaux.
Alors, je voudrais prolonger sur ce sentiment de dépossession en faisant le lien avec la deuxième leçon qui est sur le libéralisme autoritaire, où vous interrogez cette notion-là. L'idée un peu reprise de Carl Schmitt que Thomas Negaroff évoquait tout à l'heure, d'un État qui serait faible sur l'économie et sur le social et qui serait fort, voire très fort, sur le politique, la culture, la société. Et ce procès qui est fait à l'Union européenne de se placer d'une certaine manière en poussant loin dans la filiation de la dictature de Pinochet, avec notamment ce moment de la Troïka européenne. Alors, vous mobilisez une série d'arguments pour récuser cette thèse. Je voudrais vous interroger sur un des arguments, c'est le dernier. Vous distinguez le substantif libéralisme de l'adjectif libéral.
Oui.
Et donc, je voudrais que vous essayiez d'expliciter cela. Et est-ce que on peut aller jusqu'à dire que l'Union européenne est libérale, mais n'est pas dans le libéralisme?
Justine Lacroix, face à un Gilles qui, aujourd'hui, aime les mots.
On est vraiment sur le sens des mots.
Vous avez raison, je vais répondre à votre question. C'est un livre sur le sens des mots, parce qu'un des objectifs dans ce livre, c'est de montrer qu'en fait, toutes ces valeurs sont essentiellement contestées et qu'elles doivent l'être. Qu'en fait, elles doivent l'être. C'est très très important, et donc que chacun des termes en fait peut donner lieu à des conflits d'interprétation démocratique, et que je suis pas là pour imposer le bon sens de chacun de ces concepts. Mais je réponds à votre question. La distinction substantif-adjectif, je l'ai empruntée à Michael Walzer, qui a publié un petit livre sur la question du libéralisme. Et il disait, au fond, il faut distinguer comment on se définit et comment on est qui on est. Alors, comment je me définis ? Par exemple, si je me définis comme socialiste, si je dis de moi je suis un socialiste, mais un socialiste libéral, c'est-à-dire que je suis un socialiste qui accepte de se confronter aux arguments de l'adversaire, qui accepte de ne pas avoir le monopole de la vérité, qui accepte en fond une certaine forme, il disait, d'ironie, c'est-à-dire de distanciation critique par rapport à ses engagements. Et je peux, disait-il, être un communautarien libéral de la sorte, féministe libéral de la sorte, etc., etc. Et donc ça ne veut pas dire, et c'est différent, que de se définir comme un libéral au sens où on l'entend ici, notamment en France, un libéral attaché à la défense des libertés économiques ou même un membre du parti libéral. Et c'est très différent. C'est une certaine attitude vis-à-vis du politique, et je pense qu'il insistait sur le fait qu'en ce sens-là très large, le libéralisme est quand même le bien commun de tous les démocrates.
Si et alors, est-ce que l'Union européenne est libérale dans quel sens alors l'Union européenne est-elle libérale?
Oui, j'ajoute d'ailleurs à ça en prolongeant, parce que la question qui apparaît dans le livre est celle justement de l'inclusion dans certains traités ou dans certaines structures d'une dimension économique, donc d'un libéralisme économique. Or, on sait bien que c'est ce qui a posé problème dans le débat, par exemple, sur le traité constitutionnel européen.
Bien sûr, bien sûr, et vous avez tout à fait raison. Moi, l'Union européenne, si vous voulez, d'abord, il lui est plus difficile de se définir parce que c'est pas un individu. Ce que j'ai tenté de montrer, et je me suis appuyée là-dessus sur les travaux des très bons historiens, notamment ceux de Laurent Warlousset, qui ont montré qu'en fait, il y a toujours eu plusieurs forces à l'œuvre dans la construction européenne. Il y a eu des forces sociales, libérales, de marché, ultra-libérales, et aussi mercantilistes. Et que c'est beaucoup une histoire de rapport de force. Alors je ne suis pas du tout en train de nier que depuis 1986, acte unique européen, et le lancement du grand marché intérieur, l'Union européenne a pris, en tout cas, je dirais que jusqu'en 2020, c'est le moment où on suspend ce fameux pacte de stabilité, a pris un virage ultra-libéral et a notamment adopté ce pacte de stabilité qui soustrayait un certain nombre de principes ou de certain nombre de critères de politique économique de la délibération démocratique. Et on nous a présenté certains critères, notamment relatifs à la dette, au niveau d'endettement, comme si c'était des lois de la gravité, des lois scientifiques qui étaient soustraites au débat démocratique.
Et pire encore, le déficit budgétaire.
Voilà. Et donc, c'est une difficulté. En même temps, ce n'est pas l'Union européenne qui a, de façon autoritaire, imposé ça aux États. C'est les États qui ont adopté ce pacte de stabilité en 2012 au Conseil européen. C'est l'Assemblée nationale française qui l'a adopté en quelques minutes. Donc j'ai envie de dire, c'est aussi l'Union européenne, elle est ce que les États en font. Et si vous voulez, je voudrais résister à l'idée qu'il y aurait eu une sorte de technocratie ivre de son pouvoir qui aurait imposé ce logiciel néolibéral à l'Europe.
Dans son préambule, l'Union européenne se définit comme un espace de liberté, de sécurité et de justice. Et vous interrogez cette question de la sécurité. Je disais tout à l'heure que votre livre était stimulant en ce qu'il venait bousculer des idées reçues. Et par exemple, vous contestez l'idée que la première des libertés serait le droit à la sécurité. Et pourquoi considérez-vous que de plus en plus la recherche de la sécurité, avec notamment dans toute l'Europe des taux d'emprisonnement de plus en plus importants, répond simplement à un désir de vengeance?
Ah oui. Justine Lacroix.
Il y a deux questions. Pourquoi est-ce que je conteste que la première liberté soit le droit à la sécurité? Tout simplement parce que le droit à la sécurité ne figure en tant que tel ni dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le droit à la sûreté et le droit d'échapper à l'emprisonnement arbitraire, c'est assez clair dans les interprétations qui en ont été données. Le droit à la sécurité en tant que tel ne figure dans aucun instrument de défense européen des droits de l'homme. Le droit à la sûreté, article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 6 de la Charte des droits fondamentaux, c'est le droit de ne pas subir un emprisonnement arbitraire. Vous ne pouvez pas être privé de votre liberté sans passer devant un juge, etc. Et donc, je ne dis pas que la sécurité ne soit pas un objectif très important. Ça, je le développe par après, mais de dire qu'il n'y a pas un droit individuel à la sécurité, là, il me semble qu'il y a une confusion et que si on veut penser à la sécurité, il faut s'y prendre autrement. Pourquoi est-ce que je parle de vengeance ? Je me suis appuyée sur les réflexions de Paul Ricoeur. Je me suis intéressée à deux choses. Donc, d'abord, l'Union européenne connaît une inflation carcérale absolument sans précédent et personne n'en parle. Moi, je suis assez... Voilà, il y a ce débat, on a des élections. Personne ne parle. En 20 ans, les prisons françaises accueillent plus de 30% de détenus. Et c'est à peu près la même chose dans tous les pays, sauf l'Allemagne et les Pays-Bas. J'ai fait ces calculs. C'est vrai que les pays de l'Est, ça a fortement diminué, mais ils partaient de niveaux tellement hauts. Bon. Pourquoi est-ce que je mobilise cette question de la vengeance ? À la suite de Paul Ricoeur, Paul Ricoeur avait fait un article que je trouvais vraiment très très passionnant, où il disait au fond, toute la justice vise à échapper à la vengeance, en substituant à la violence la parole, si vous voulez, et la prise en compte de la parole de l'autre, et le contradictoire. Puis il disait, au bout du compte, il y a quand même une aporie, un paradoxe qui subsiste, c'est qu'au bout du compte, il y a quand même une épreuve de force, qui est l'enfermement, qui est la privation de liberté, qui est une peine. Et il disait, au fond, c'est ce paradoxe, et il ne disait pas qu'il fallait abolir l'emprisonnement, je ne le dis pas non plus, mais il disait, il faut avoir conscience qu'au bout du compte, on revient à ce langage de force que la justice avait pour but d'écarter. Et il disait, à ce paradoxe spéculatif, il n'y a qu'une solution, c'est une solution pragmatique qui consiste, au fond, à ne réellement priver de liberté que les personnes qui sont dangereuses et à s'assurer que les conditions de détention permettent la réinsertion dans la société. Or, il me semble que non seulement il y a une inflation carcérale absolument vertigineuse, mais les conditions de détention se dégradent partout. Il y a eu plusieurs condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme là-dessus, et qu'il me semble que ça, c'est quand même une question qui devrait être dans les débats européens aujourd'hui.
J'ai une dernière question, peut-être plus prosaïque. Dans 3 semaines, les Européens vont voter pour les élections européennes. Comment est-ce que vous expliquez que ce soit aujourd'hui, dans beaucoup de pays, notamment en France, mais pas seulement, des partis hostiles à l'intégration européenne, au fédéralisme européen qui est le vent en poupe ? Est-ce que c'est, pour vous, un signe d'une crise démocratique en Europe ?
Mais ce qui est terrible, c'est que je ne suis même pas sûre qu'ils soient tellement hostiles à l'intégration européenne. C'est-à-dire qu'après 2005 et l'échec du traité constitutionnel, si vous voulez, il y a eu une grande phase, effectivement, de tous les fédéralistes, les cosmopolites, les gens qui croyaient à l'idée européenne, si vous voulez, ont été tous réchoqués. Et on a cru que... Et en fait, on a vu renaître un récit européen alternatif, qui ne me plaît pas du tout, qui m'inquiète très fort. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, aucun de ces partis, ou très peu de ces partis, ne réclament la sortie de l'Union européenne.
Non, je n'ai pas parlé de sortie d'Europe.
Plus personne n'en parle. Et nombre d'entre eux, en fait, entendent défendre une vision alternative de l'Europe. Et ils diraient, nous aussi, et c'est pour ça que ce terme de valeur est ambivalent, parce que ce qu'ils disent, c'est nous défendons les vraies valeurs européennes, la famille, la nation,
l'Église
souvent, le refus d'émigration, une Europe, voilà. Et donc, je veux dire, leur force a été quand même d'articuler une sorte de narratif européen. Et c'est un petit peu avec le risque effectivement qu'ils puissent paralyser les institutions européennes, à ceci près quand même qu'il faut être quand même attentif au fait que ces partis d'extrême droite, comme on dit, sont très divisés entre eux sur un certain nombre de sujets.
Est-ce que c'est pour ça que vous avez finalement décidé d'utiliser le mot de valeur, pour ne pas leur laisser ?
Il ne faut pas leur abandonner ce concept, voilà, effectivement.
Merci.
Je n'avais pas pensé, mais c'est une bonne raison.
Merci Justine Lacroix. Les valeurs de l'Europe, un enjeu démocratique, c'est à lire aux éditions du Collège de France. C'est paru il y a 2 jours. Merci Gilles et merci Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face. Mathilde Clatt à la préparation de l'émission. Marie Merrier à la réalisation. Aujourd'hui, David Diboublac et Florian Dormini à la technique d'une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur l'appli Radio France et sur franceinter.fr. Et depuis quelques jours, un tout nouveau podcast de 6 épisodes, Europe, anatomie d'une utopie, avec l'historien Léonard Laborie, est disponible lui aussi sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
Franck Tillier, l'auteur de thrillers préférés des Français, est de retour en librairie. Par moins 40 degrés, plongé dans une enquête glaciale, Franck vous emmène à Norfairville, au cœur du Grand Nord canadien. Dans l'univers hostile de cette ville minière, personne ne vous entendra crier. Norfairville, le nouveau roman de Franck Tillier, chez Fleuve Édition.
Sur Akena.com, les bonnes affaires du moment. Sur Akena.com, je suis au firmament.
Ok Chantal, c'est lourd, mais viens, on la fait plus badass, t'as capté?
Ok Coco, balance l'instru. Sur Akena.com, je kiffe les bons deals. Sur Akena.com, je vais skier les crocodiles.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Bonjour, je m'appelle Lucie Charnet. Je suis conseillère EDF pour les entreprises à Lyon. Beaucoup de clients me demandent comment se lancer dans la transition énergétique de leur entreprise. Nous parlons ensemble de solutions concrètes comme Suivi Conso, un outil pour comprendre et analyser leur consommation afin de l'optimiser. C'est un premier pas pour entamer la décarbonation de leur activité et réduire leurs factures.
EDF. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.